Bon, les garçons, attention parce qu'aujourd'hui on reçoit un délinquant.
Benalla, on reçoit Benalla.
Balkany, on reçoit Balkany.
Non, beaucoup plus lourd que ça.
C'est pas vrai.
On reçoit un mec qui a commis un délit de solidarité.
Cédric Héroux, agriculteur, Bresse Royale, délinquant.
Elle est belle la France.
Ah, Cédric Héroux, c'est un sacré margoulin.
Mais tu crois pas qu'on risque quelque chose?
Ah, bah moi j'appelle la police, c'est un direct.
En plus, il fait peur à des pointures.
Comme qui?
Bah, Éric Ciotti.
Monsieur Héroux a tenu ce matin sur Europe 1 des propos ignobles, honteux.
Il est quand même un peu bizarre, hein, ce Éric Ciotti.
Pourquoi tu dis ça?
Mais il écoute Europe 1.
Mais c'est pas la question, enfin. Notre invité a été arrêté plusieurs fois. Il est allé en garde à vue. Il a même été sous contrôle judiciaire.
Cédric Héroux, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.
Il faut qu'Emmanuel Macron vienne le chercher, Cédric Héroux.
Je suis sûr qu'il fume de la marijuana.
Oh non, pas la drogue. Non. Ça, la drogue, c'est interdit.
Manquerait plus qu'il joue du djembé.
Non, je sais plus quoi faire.
Voilà, mais excusez-moi, mais moi je suis pas bien au courant de toute cette histoire. On lui reproche quoi à ce type?
C'est un brigand, parce qu'il a sauvé des enfants. Bah oui. Il leur a donné à manger, il leur a offert un toit.
Salaud.
Attendez, je suis un peu ennuyé, mais un jour, moi, j'ai accueilli un Suisse.
Oh,
et je lui ai donné une raclette.
Ah bah d'accord, ah bah deux délinquants dans la même émission.
Oh putain, on est foutus. J'appelle Gérard Collomb. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Radio. Ce lieu où les actualités parlées côtoient la galéjade, le tout dans un esprit de détente et de coworking. L'Aquarius a finalement accosté à Malte avec sa horde de 58 migrants qu'il faudra répartir dans 4 pays pour éviter la surpopulation en Europe. Heureusement, l'Union Européenne est en pleine réflexion sur ce dossier.
Alors, moi je pense qu'on devrait se concentrer un petit peu sur la libre circulation des bateaux marchands dans les eaux territoriales.
C'est bien parti. Les oliviers malades de la peste des champs ont été décimés en Italie par une bactérie qui inquiète aussi les agriculteurs français. Imagine-t-on une vie sans huile d'olive?
La vinaigrette, je la fais à l'huile de noix ou alors au citron?
Comment engager la conversation avec un inconnu et surtout comment éviter le « et sinon vous faites quoi dans la vie ?» L'angoisse.
Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît.
Que vous allez foutre, Gustave Flaubert.
Voilà, la première fois que j'ai établi le contact avec lui, c'était en lui disant « Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir commander une andouillette ?» Tranche de vie.
Bonjour, c'est moi. Bonjour, Charlie de Vanhoenacker. Vous avez bien eu raison de m'adresser la parole, puisqu'on se retrouve quelques années plus tard avec une belle équipe autour de nous. À 17h20, roulement de tambour. Attention, on n'y croyait plus, mais comme il a des pensions alimentaires à payer, il revient, André Manoukian, mesdames et messieurs.
Bonjour les amis, bonjour, comme vous m'avez manqué.
Mais vous aussi, de quoi allez-vous nous parler, André?
Eh bien, le grand Ibrahim Malouf avec Levantine Symphonie.
Ibrahim Malouf sur France Inter,
vous êtes fous. Ça n'a jamais été fait. Il est dingue.
À 17h30, vous venez de l'entendre, et lui il est allé sur les traces de son idole, comme Platon suivait Socrate, Guillaume Meurice a suivi Manuel.
Oui, je suis allé à Évry, une ville qui pleure le départ de Manu, mais qui lui rend hommage.
Il est libre.
Ouais, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler l'élection.
Et à 17h40, il porte le même prénom que Picasso, et pourtant il n'aura jamais de période rose, non, il ne connaît que la période verte, comme les billets américains.
Comme la cravate aujourd'hui.
Et comme la cravate,
Alex.
Pablo Mira.
Salut Alex, salut Charline. Guillaume, comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la France a eu raison de ne pas accueillir l'Aquarius, ce bateau du diable, ce cheval de Troie du grand remplacement, cette navette de l'apocalypse, ce Léviathan.
Oui, non, ça marche, on a compris, Pablo.
Mais j'avais encore une petite centaine de.
Oui, on verra ça tout à l'heure.
Ouais, d'accord.
Oui, car voici celui qui a trouvé refuge à l'ambassade de la blague islamo-gauchiste. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes.
Cédric Héroux.
C'est classe. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Vous êtes le Cédric Héroux de la vallée de la Roya?
Ouais, le pouilleux là.
C'est lui.
Bienvenue chez nous, Cédric Héroux. On vous voit dans un documentaire qui est consacré à votre action et à celle des habitants de la Roya. Documentaire qui s'appelle Libre, un film de Michel Toesca qui sort en salle aujourd'hui. Qui a déjà été couronné du prix mention spéciale Œil d'Or 2018, sélection officielle Festival de Cannes. Alors, Michel Toesca, c'est l'un de vos amis.
Ouais, c'est un pote. Un pote de bar, quoi.
Il y a un regard qui n'est pas complètement extérieur. Il vous a suivi pendant 3 ans. Ça, c'est la bonne contrepartie. Le film retrace l'histoire de votre combat, celui des habitants de la vallée de la Roya, à la frontière italienne. Alors, si on reprend l'historique un petit peu, en 2011, vous commencez par prendre des Tunisiens en stop. Et puis c'est l'engrenage. âge.
Bah, pas du tout, en fait.
Vous faites
ça
dans...
commence mal, votre émission, quand même.
Ah, c'est
fou.
C'est pas comme ça.
Non, c'est pas tunisien. Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé en 2016. Au départ, j'en avais un peu rien à foutre de tout ça. Et j'ai décidé d'agir en 2016, donc en voyant des gamins au bord de route dans notre vallée, quoi.
Très bien. Mais les bios qui traînent sur les internets sont donc fausses, alors. Alors, libre.
C'est pour ça que c'est n'importe quoi.
On peut poser la question, est-ce que si vous voyez des Tunisiens, vous les sauvez ou non?
Non, Tunisiens, non.
Non, d'accord, on est d'accord là-dessus.
C'est vraiment en 2016 que la première fois que vous avez embarqué des gens.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Dans votre bio, vous êtes champion de free fight, c'est bon ça aussi, en termes de bio. Parce que moi, j'ai aussi prix Nobel. Je sais pas, vous me dites si on est bon parce que je.
Alors, libre, jusque-là, c'est bon.
Ça, c'est bon.
C'est le film. Libre, c'est un mot qui guide votre action. Vous expliquez dans le film qu'en accueillant ces réfugiés, vous vous sentez libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie ce mot? Et pourquoi il guide toute votre action?
Je pense que la liberté ne peut pas être entravée par des menaces, par une corruption, par la menace. La liberté va bien plus loin que des barreaux de prison. C'est d'assumer ses pensées, d'assumer ses actions, de les réfléchir. Et pour moi, la liberté, c'est ça, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste la notion de liberté de mouvement. C'est une notion de réflexion et d'agir par rapport à ces réflexions.
Ça veut dire que vous ne vous sentez pas libre si vous ne
si j'arrête ce que je fais juste par la menace, non, je ne serai plus libre, non, pas du tout.
Alors, les réfugiés dans ce film sont plutôt au second plan. C'est d'abord votre action et celle de tous les membres de l'association, des habitants de la Roya aussi qu'on voit. Est-ce que c'est parce que le réalisateur est en amouré devant votre action, ou est-ce qu'il est difficile ou presque impossible de filmer
les noirs ne sont pas photogéniques, en fait.
C'est un réalisateur raciste,
en fait. C'est ce que je me disais.
Donc on a préféré. Non, c'est un film sur l'accueil, en fait. C'est un film politique plus que militant. On n'est pas allé vers un problème, on n'est pas sensibilisé d'un problème, on nous a mis un problème dans une vallée qui est chez nous. Et on a réagi face à ce problème-là. Et donc du coup, on parle d'une action politique, citoyenne, populaire, sur une localité.
C'est-à-dire qu'on voit bien comment vous réagissez, comment vous les accueillez. Ça va d'une infirmière bénévole qui vient soigner, aux cours de français qui sont donnés, etc. Mais comment a été accueillie la caméra? Si vous a suivi 3 ans, c'est qu'on s'est habitué à ça, mais les réfugiés, ils tournent, ils sont de passage aussi, ils sont souvent renvoyés puis ils reviennent. Ouais. Comment est acceptée la caméra et est-ce qu'il est facile ou pas de filmer ces gens?
Non, c'est pas
et
facile.
De les faire parler?
Non, c'est pas facile de les filmer, de les faire parler, mais ils ont confiance en caméra de Michel parce que c'était notre caméra. Voilà, c'est une caméra amie, c'est un outil. Et ce n'était pas la caméra de TF1 ou France 2 ou BFM. Ce n'est pas une caméra voyeuriste, c'est une caméra amie. Et ce n'est pas un film objectif, c'est un film subjectif, c'est un film engagé. C'est un film, c'est vraiment, pour Michel, son arme, c'est sa caméra, c'est son outil. C'est un peu comme la trousse de soins des infirmières, Michel, lui, il a sa caméra. Mmh. Et donc, du coup, elle a été acceptée parce que c'est vraiment, ça a été vraiment une arme pour nous, en fait, de dénoncer. On a beaucoup dénoncé par la caméra, par le média, par l'écrit. Et
En même temps, je veux dire, ça va un petit peu arrêter ces fantasmes qui nous assaillent tous les jours. Quand les gens voient et se rendent compte, mais spontanément, ils vont tous faire ce que vous faites. Il y a Martine aussi, qui est une grande héroïne, qui a eu un procès aussi, et qui disait que c'est le premier geste, la première fois qu'elle a été chercher des gamins de l'autre côté de la frontière, et puis ils étaient dans un camp, et elle a emmené ses petits gamins avec, et puis ils ont commencé à jouer au foot. Et tout d'un coup, je veux dire, c'est avec des détails comme ça qu'on se rend compte juste que ce sont des êtres humains et qu'on est des êtres humains. Donc c'est pour ça que des films comme le vôtre sont vraiment plus que nécessaires, parce que on n'a plus du tout les infos enfin, on a des infos, comme disait avant de s'en aller Bernard Guetta.
David Guetta, c'est une autre démarche géopolitique.
Il disait, on est tous sur la tête, on est renversés. C'est ce que vous disiez, Charline, au début de l'émission. 50 migrants et répartis sur 4 pays. Non, mais on va pas bien, quoi. Donc,
c'est un sujet qu'on va bien sûr aborder après la. Quelle
est votre question exacte?
Je disais que c'était un acte nécessaire.
Le bordel dans le programme.
Parce qu'on était en train d'essayer de savoir si c'était un film militant.
Mais pourquoi vous l'avez
repris,
en fait? Je comprends pas.
Il y aura un quota, il doit venir une fois par saison.
On s'en fout, c'est un film qu'il faut aller voir.
Vous avez raison, André, parce qu'on voit concrètement la vie au quotidien, la façon et les embûches auxquelles vous êtes confrontés. confrontés, qui sont pas minces. Les flics qui sont là en permanence, ouais. Les autorités, vos discussions.
Mais on voit beaucoup de choses. On voit en fait une organisation faite de briques et de brocs par des gens, des paysans, des infirmières, par Michel. Et on travaille avec les moyens du bord. Et en face de nous, on a l'État qui bricole aussi. On n'a pas les mêmes moyens financiers, c'est sûr, dommage d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit deux bricolages et deux mondes un peu qui s'affrontent. Et c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer.
Ouais, il y a un mur, humain, on le voit dans le film. Hein.
Et de voir en fait ce qui sensibilise les gens en voyant ce film, c'est de voir les actions d'État qui sont complètement irrégulières et de savoir qu'un préfet des Alpes-Maritimes, que je salue grandement, monsieur le préfet, j'ai toujours plaisir de parler de lui, monsieur Leclerc, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça. Et que s'il se sert de la police pour faire des actions illégales, qu'il y a des directives qui sont illégales, et c'est assez dingue de savoir qu'on a un gouvernement, donc monsieur Collomb, et qui devrait faire virer ce mec-là, quoi, parce que il insulte par sa présence, il insulte sa fonction.
Il est condamné d'ailleurs régulièrement.
Oui, mais souvent. Voir ce gars en fait se défendre, la manière de se défendre, on l'a emmené au tribunal administratif parce qu'en fait il renvoyait systématiquement les gamins en Italie, et voir sa défense en fait. Pour lui, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des vulgaires cartons en fait. Et nous, on parle de gens. Et la grosse problématique en fait pour notre défense, qu'on est au tribunal, qu'on est devant ces gens-là, c'est qu'on nous on parle de gens, eux ils parlent de chiffres. Et on peut pas s'entendre là-dessus en fait. On a l'impression de faire de la contrebande de, je sais pas, de clopes ou de. Et ça, c'est impossible de s'expliquer contre ces gens-là, parce que ces gens sont, pour moi, des sociopathes en fait.
Eh bien, ils sont là.
Le film s'appelle Libre de Michel Toesca. Il sort en salle aujourd'hui.
Uno, dos, un, dos, tres.
Et pourtant, on est du côté de l'Italie plutôt, avec Cédric Héroux qui nous accompagne jusqu'à 18h. Cédric de la vallée de la Roya, on salue tous les habitants.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around town. But alright.
Ville. Hey Joe sur France Inter, nous sommes en compagnie de Cédric Héroux, l'agriculteur de la vallée de la Roya qui accueille les réfugiés. Alex, pour entourer Cédric Héroux.
Alors déjà, sur le hashtag Par Jupiter, on a bisous aux délinquants de Par Jupiter, aujourd'hui de la part d'une pirate, et c'est Alice Gautreau, qui est sage-femme sur l'Aquarius à l'époque, qui était venue à votre place, et donc voilà.
Et qui nous écoute depuis le Congo, je crois. Où elle est envoyée par Médecins Sans Frontières.
Toute cette mafia gauchiste, ces gens
On l'a salué.
À part ça, il y a heureusement.
En fait elle est là-bas pour organiser les passages, c'est ça.
Sans doute. André Manoukian et Guillaume Meurice, évidemment.
Allez, l'information.
L'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. L'humanisme, c'est...
Le journal de presque 17h17.
La destinée humaine, ça conflit comme ça, on ratant. Mais de ratage en ratage, on s'habitue à ne jamais dépasser le stade du brouillon.
Et on commence par les titres.
Lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Donald Trump a provoqué l'hilarité des dirigeants du monde entier en affirmant que son bilan était l'un des meilleurs de toute l'histoire américaine.
Mais oui, ça fera un humoriste américain que Homer Sisley ne va donc pas plagier.
Au Rassemblement National, la justice réduit la saisie de 2 millions à 1 million d'euros.
Ah, juste une réduction de 1 million.
Ouais. Bah, c'est déjà beaucoup. Hein.
Bah, à l'échelle du Rassemblement National, je vous rappelle quand même qu'on est dans un parti où certains ont hésité à réduire 6 millions à un détail de l'histoire.
Et des brèves ?
Et oui, pas de réduction du côté des brèves. Faut pas gagner. Et on commence par ce sommet à l'ONU.
Emmanuel Macron y a été sacré champion de la Terre.
Et voilà, après les Bleus champions du monde, un nouveau titre usurpé par un Français, évidemment. Et j'ai encore un peu le seum, je ne cache pas.
Suite à son discours à l'ONU, Emmanuel Macron a présenté ses excuses à...
Je présenterai toutes mes excuses au pupitre.
Et oui, il a tapé fort sur le pupitre à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc,
Car il l'avait passablement maltraité.
Et oui, il lui aurait même dit « traverse la rue pour trouver un travail de porteur de menu dans la restauration ». Et ça, c'est quand même limite.
Politique encore, Jean-Marie Le Pen, 90 ans, a été hospitalisé en urgence hier soir en raison d'une fièvre persistante, mais ses jours ne sont pas en danger.
Dis donc, papy fait de la résistance. Enfin, non, pardon, c'était pas...
International.
Oui, c'est officiel.
Quiero ser... El próximo alcalde de Barcelona.
On en est débarrassé. Ça y est, il est parti à Barcelone. Et il est pour une Barcelone ouverte au monde et non capitale d'une hypothétique République de Catalogne, dit Manuel Valls.
Ça va pas plaire aux indépendantistes.
Ça dépend, s'ils s'en prennent de la même manière que pour sortir le Parti Socialiste de l'isolement et l'ouvrir au monde, toutes les chances sont de leur côté.
Et toujours parlant de Manuel Valls, ce matin dans l'émission L'heure des pros, présentée par Pascal Pro sur CNews, une journaliste s'est emportée.
Charlotte Dornelas.
La phrase de Manuel Valls, Je suis un Espagnol en vacances en France depuis une quarantaine d'années, mais on est où là ?
Premier ministre de la France.
Il était Premier ministre, il est député aujourd'hui, non mais c'est surréaliste.
Il y a des gens.
Mais on est où ? Je m'énerve, tout ça. Et c'est vrai que c'est heureusement qu'elle nous donne cette phrase, parce que nous on l'avait pas entendue cette phrase, parce qu'on n'écoute pas les bonnes radios sans doute. Mais bon, c'est vrai que 15 minutes plus tard, l'explication est tombée.
Je reconnais humblement m'être trompé. C'est donc Canteloup qui a prononcé cette phrase à la place de Manuel. Mais Canteloup est tellement bon que j'ai cru que c'était Manuel Valls.
Lol. Et les journalistes où, cette madame ?
Valeurs actuelles.
Valeurs actuelles. Rolol.
Et c'était même pas l'holographie.
Et c'était même pas l'holographie.
International encore, au Maroc, la marine a tiré sur une embarcation de migrants et a ainsi tué une femme de 22 ans.
Ah bah voilà, quand même, à côté du ministre de l'Intérieur marocain, Gérard Collomb, c'est Mère Teresa.
Sport à présent, football. C'est la crise à Manchester United entre Paul Pogba et son entraîneur José Mourinho. Ce dernier ayant même été jusqu'à retirer le brassard de vice-capitaine aux joueurs de l'équipe de France.
Ah ouais, enfin, en tout cas, si c'est pour le faire réagir, c'est pas le brassard qu'il aurait dû lui retirer, c'est son pot de gel fixation béton et les coordonnées de son coiffeur coloriste.
Allez, les brèves.
Guyane, Ariane 5 assure avec succès son 100e vol. Ouais, 100 vols à peine, Ariane, c'est tellement une baltringue à côté d'Isabelle Balcon.
Et la dernière.
En Australie, 3 hommes recherchés pour avoir torturé un kangourou. Il voulait sans doute lui piquer son argent de poche.
Non.
Mais si,
on ne peut plus tolérer ça.
Il y a des enfants qui nous écoutent.
Vous pouvez le faire passer en Italie, parce que vraiment,
Faut demander au préfet.
Il y a aussi des enfants qui nous écoutent, qui aiment bien les blagues avec des petits jeux de mots sur les kangourous. Excusez-moi, on a un peu.
En attendant, il est déjà 17h26 sur France Inter et à Breil-sur-Roya, puisque Cédric Héroux est en notre compagnie. Et on va parler de l'Aquarius, donc en route vers Malte. À bord, une armée de 58 réfugiés qui menace l'Europe de surpopulation. Donc on l'a dit. Dieu merci, ils seront répartis dans 4 pays, dont la France. Les équipes médicales les attendent à quai.
Allez, viens avec moi.
Comment ça, viens avec moi ?
Tu vas sur le bateau pour les aider, les accompagner jusqu'aux tentes médicalisées.
Ah non, je peux pas.
Le courage, on a besoin de tout le monde ici.
Je peux pas monter sur ce bateau.
C'est un effort une fois dans ta vie, merde.
Non mais j'aurais adoré les aider, mais j'ai pas envie de choper une saloperie.
Superchondriaque de Danny Boone avec lui-même et Cadmerade. Donc le navire humanitaire a perdu son pavillon. C'est donc un navire pirate, on peut dire. Est-ce que vous voyez un sort commun avec le vôtre finalement ? Est-ce que vous n'êtes pas aussi une sorte considéré comme un pirate ?
Ouais, je crois que c'est la question est quand même plus difficile pour l'Aquarius que pour moi quand même. Mm-hmm. C'est que ouais, non, c'est quand même plus compliqué pour eux. Après, on est un peu tous des pirates, hein, je crois qu'on n'a pas trop le choix, quoi.
Vous voulez dire c'est plus compliqué dans la démarche qu'elle a l'heure ou légalement?
Ils sont confrontés à la mort en fait, mm-hmm. donc directement. Il y a beaucoup de gens qui meurent, hein. Une personne sur 17 là en ce moment qui tente de passer à la Méditerranée qui meurt, quoi. Donc ça va être une 17 sur 17 dans pas longtemps, parce qu'il n'y aura plus aucun bateau de secours dans la Méditerranée, et que l'Europe, l'Italie, la France fait tout en fait pour en virer ces bateaux, quoi, et que les gens meurent en Méditerranée. C'est quand même, on peut appeler ça un crime contre l'humanité, hein. Je pense que dans pas longtemps on risque d'en parler, et ce qui se passe c'est grave, quoi.
Ils sont 58 à bord et seront répartis dans 4 pays. Et voilà, 58.
Il y a eu un mini sommet européen pour 58 personnes. Juste pour vous dire, à la maison, on est arrivé jusqu'à 250. Ouais. En tout, 2500 personnes qui ont été gérées avec des tentes, des caravanes, du bon sens paysan, avec pas grand chose, quoi. Mmh. Et qu'on voit qu'ils font des mini sommets européens pour 58 personnes, mais c'est du foutage de gueule, en fait. C'est vraiment du foutage de gueule.
Vous qui les avez près de vous, avec qui vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe là-bas, le pourquoi de, à un moment, ils sont partis, parce qu'il y a une espèce d'angoisse des gens, peut-être de droite, qu'ils veulent venir chez nous pour nous prendre leur travail. Vous qui les voyez, est-ce qu'ils vous expliquent peut-être que, en fait, c'est juste invivable là-bas?
Après, quand les personnes viennent à la maison, nous, justement, c'est pour ça qu'on a un accueil peut-être différent, alternatif, c'est qu'on leur pose pas de questions, en fait. C'est qu'on les considère comme personnes, et quand moi j'ai des gens qui viennent à la maison des invités, je leur demande pas s'ils sont fait violer quand ils étaient gamins ou autre chose.
Non, mais ils pourraient avoir envie de s'ouvrir.
Ouais,
mais
voilà, sinon il y a des personnes qui se confient, mais sinon nous chez nous on a des Érythréens, des Soudanais du Sud, Darfour, donc c'est la dictature, c'est la guerre, et le pire c'est la Libye, quoi. Vous savez, les gens avec qui l'Europe finance en ce moment, qui ont travaillé, qu'on appelle les gardes-côtes, mais en fait qui sont des passeurs, enfin c'est un peu et là-bas ils se font torturer, et ce que je peux voir c'est en soignant les blessures qui sont pas encore fermées des tortures, et c'est assez glauque, c'est assez et c'est vrai d'avoir ça chez soi là, sur la Côte d'Azur, moi qui étais protégé étant gamin par mes parents, qui une petite vie idéale, et de se retrouver que tout ça devienne réalité, quoi, que la torture devienne réalité, que la guerre devienne réalité, et c'est compliqué à vivre, c'est sûr.
Et quand vous dites on leur pose pas de questions, c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles dans le film Libre il y a assez peu de témoignages. Il y en a notamment un qui est nigérian et qui raconte Boko Haram, mais ils sont assez peu. Et ça, c'est un moment très très fort du film de Michel Toesca, qui sort en salle aujourd'hui, sur l'action de Cédric Héroux et les habitants de la vallée de la Roya qui travaillent avec vous. À côté de vous, Cédric Héroux, il y a André Manoukian qui
vous
nous fait du bien.
Un bol pas possible.
Ah ouais, c'est dingue. Vous êtes tombé le jour où il est revenu, c'est fou.
Une étoile filante.
Enfin, vous avez mis les pollus à côté, quoi.
Allez, on en profite. Allez-y, André.
La camarade. Allez, une fois, il n'est pas coutume, Charline, on va écouter une symphonie. Mais une symphonie pas comme les autres, une symphonie levantine. Alors, symphonie, c'est quoi? Le dictionnaire dit que c'est comme une sonate, que ça a trois mouvements. Bah, alors, c'est quoi la forme sonate? Eh ben, c'est une forme musicale développée en trois parties. En gros, vous prenez un thème et vous l'exposez, c'est la première partie. Vous le développez, c'est la deuxième partie. Vous le réexposez, c'est la troisième partie. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Par exemple, ces gens formidables que Guillaume interroge dans la rue, eh ben, ils font des sonates. Ils exposent un truc un peu con d'abord en réponse aux questions pertinentes de notre Socrate. C'est le premier mouvement. Et comme il s'interroge, Socrate, il fait semblant qu'il a pas compris, alors il développe, c'est le deuxième mouvement. Et au moment où il fait semblant qu'il a compris, mais un peu de travers quand même, il répète pour être bien clair. Et là, c'est la réexposition du thème, le troisième mouvement. Voilà, de véritables sonatines de conneries qui, jour à jour, exposées, créent la grande symphonie de la France. Et du coup, Guillaume Meurice, c'est un peu notre Richard Wagner qui va chercher dans les profondeurs et les sombritudes des gens, l'âme du peuple français.
On peut pas prendre autre chose que Wagner.
André Rieu, peut-être.
Bah, Wagner, c'est celui qui a inventé la musique de film, c'est celui qui a été chercher.
Allons pour Wagner.
Vous savez pourquoi il a inventé la musique de film? Il faisait des cadences qu'il ne concluait pas parce qu'il n'arrivait pas lui-même à conclure. Mais ça, c'est la vérité. Allez, on revient à Ibrahim Malouf. Charline, si m'interrompt, on va pas s'en sortir. Jusqu'à présent, j'étais dans le timing. Ibrahim Malouf, ce génial musicien qui, en jouant la musique de ses ancêtres, crée un pont formidable entre Orient et Occident. Symphonie levantine. Mais c'est quoi les Levantins déjà? C'est le nom qu'on donnait aux Orientaux au 16e siècle. Le pays du soleil levant, en grec, ça se disait Anatolé, en arabe Mashrek. Les Levantins, plus tard au 19e siècle, vont désigner les résidents non turcs de l'Empire ottoman.
les juifs, les chrétiens, grecs, arméniens, mais également les catholiques européens ou protestants qui venaient de France, d'Angleterre ou d'Allemagne et qui étaient installés dans les grandes villes ottomanes depuis le XVIIIe siècle pour profiter des avantages des traités de paix conclus entre l'Empire ottoman et ses belligérants. Au début du XXe siècle, la ville de Smyrne, par exemple, était composée de 20% de Grecs, 20% d'Arméniens, 20% de Juifs, 20% de Turcs. Avec les grandes familles levantines qui assuraient un commerce si prospère que cette ville, avant la guerre de 14, était plus flamboyante qu'aucune autre. De splendides voitures décapotables croisaient les caravanes de chameaux qui ramenaient les épices, les dattes, les raisins secs, les marchandises précieuses chargées sur les bateaux du port à destination des villes du monde. Toute cette population cohabitait avec bonheur. Un quartier de Smyrne s'appelait même le paradis. On célébrait les fêtes de tous les cultes sur le port. Les nombreux cafés avaient chacun un orchestre. C'est là que fut créée cette musique de voyous, le Rebetikon, que les Grecs ramèneront chez eux quand ils seront chassés. Smyrne a tenu pendant la Première Guerre mondiale grâce à un gouverneur particulièrement intelligent qui obtint de fait la neutralité de cette cité la plus cosmopolite du monde qui vit naître Homère, la philosophie grecque, et mon père. Il avait 2 ans quand l'incendie ravagea la ville et mit fin à cet Orient rêvé à jamais perdu, mais qui renaît à nouveau sous la baguette du maestro Ibrahim Malouf. C'est à ça que servent les musiciens, à nous faire entendre la beauté du monde pour nous faire revivre ces temps où tous partageaient le même kef.
Une symphonie, un extrait du dernier album donc d'Ibrahim Malouf.
Exactement, qui va jouer bientôt, ça sera complet, allez-y. Mais bon, moi, ça me met les poils chaque fois, cette musique.
Merci André Manoukian.
Merci Charline.
Plaisir de vous accueillir à nouveau.
Et bonne année déjà, on se voit donc en janvier. Hein
avant, je vous promets. Avant.
Cédric Héroux est avec nous. L'agriculteur de la vallée de la Roya qui accueille les réfugiés. Et à côté de vous, il y a le fameux Guillaume Meurice qui, jadis, vous avez d'ailleurs interrogé.
Exact. Ouais. Adieu. Adieu, petit ange. Adios, Manuel. Petit soldat de la défaite. Petit prince de l'échec. Toi qui as tout tenté, y compris une greffe de la dignité que ton petit corps a rejetée, tu es parti vers d'autres horizons, d'autres dérouillés. Nous respectons ton destin, mais nous pleurons le nôtre. André Manoukian qui revient, Manuel Valls qui part. Tout le déclin de la civilisation résumé en deux phrases. J'étais donc à Évry ce matin, dans son fief, s'il vous plaît. On pleure, Manuel Valls, je vous le rappelle. Petite commune de banlieue où Manu avait ses habitudes, calme, discret, jamais un bourrage d'urne plus haut que l'autre. Aujourd'hui, c'est toute une population qui pleure l'enfant du pays et j'ai rencontré des habitants dévastés.
De toute façon, moi, je le connais très bien.
Ah ouais ?
Bah oui, je suis d'Évry, je connais très bien.
Et vous l'aimez bien ou pas ?
Non.
Beaucoup de pudeur, évidemment, ce matin. Difficile d'assumer l'admiration qu'on vouait au grand homme, hein, qu'on appelait ici le White, le Blanco, le fils spirituel de Michel Rocard et de Judas. Beaucoup de gens qui ne peuvent cacher aujourd'hui ce sentiment d'abandon.
Il nous abandonne.
Est-ce que vous êtes un peu triste ?
Bah non, je suis triste, moi. Oh là, je suis pas triste, moi, il fait sa vie. Comme on dit, chacun fait son lit comme il veut se coucher. Hein.
Bien sûr, beaucoup de déni également. Hein. On ne veut pas y croire. On préfère se réfugier derrière des proverbes qui feraient passer Bernard Pivot pour Maître Gims. Ça fait partie des phases du deuil. Pas Maître Gims, le déni, encore que. Mais j'ai voulu continuer à porter le micro dans la plaie. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Manu ?
Qu'il soit heureux. Il est chez lui, il est heureux. Parmi sa famille, tant mieux, hein.
Mais lui, il disait qu'Evry, c'était chez lui pourtant.
Bah, c'est bien dommage, il a abandonné sa famille. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est son choix.
Vous vous sentez trahi ?
Non comment.
Qu'il est lourd de sens, ce no comment. Quand la douleur devient trop grande, on ne trouve plus les mots. Putain, c'est beau ce que je dis, on dirait du Cali. Tentons tout de même de positiver, de nous tourner vers l'avenir avec un autre habitant.
Vous pensez qu'il a une chance à Barcelone, Manuel Valls, ou pas ?
Rien à foutre, alors c'est pas ça qui va faire rire ma marmite. Hein.
Tais-toi, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Élève-toi au-dessus de la marmite, parce que ce monsieur, malgré cette angoisse qui le hante, soutient Manu contre ceux qui pensent qu'il n'a rien fait à Évry.
Ah si, quand même fait pas mal de choses bien, si.
Ah, il a fait des choses bien quand même.
Ouais, mais
alors, qu'est-ce qu'il a fait ?
Si, il a bien... Ça me vient pas à l'idée tout de suite, mais enfin...
Tellement tout fait. C'est pour ça qu'il a pas foutu les pieds à l'Assemblée nationale depuis un bail. Il aime tellement Évry, Manu. C'est comme quand on aime une femme. Est-ce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, hein? Enfin, non, c'est un mauvais exemple, Alex. André, bon, non, c'est un autre exemple. Non, c'est la merde. Manu, Évry, c'était sa ville, c'était sa vie.
Mais à Évry, lui, c'était sa vie. Il est arrivé ici jeune et puis il a grimpé jusqu'au Premier ministre. Et après, son entourage, il l'a chié dans la botte en parlant proprement. Alors, bon.
Vous pensez que c'est son entourage qui a chié dans ses bottes ?
Ben oui, parce que c'est le Parti Socialiste qui l'ont dégradé.
Salaud de socialistes qui lui ont même fait signer un papier qui l'obligeait à soutenir Hamon. Même au temps béni de l'Algérie française, on n'osait pas une telle torture. Allez, on efface cet affront, on y croit, allez Manu.
Il va gagner aussi là-bas.
Comment vous pouvez savoir ça ?
Parce que il a un talent vraiment c'est là, extraordinaire pour rassembler les gens. Voilà, c'est ça qu'il a.
Manuel Valls, il a un talent pour rassembler les gens ?
Oui, c'est ça.
Ah oui, contre lui essentiellement. C'est vrai qu'il a un vrai talent. Hein. Souvenez-vous des manifs contre la loi travail. Toutes ces personnes rassemblées grâce à Manu. C'est une sorte de Dalai Lama du Somme. Il aurait pu être belge d'ailleurs, Manu. Allez, on pense à lui, Manu et à son équipe.
Autour de lui, il y a des conseillers. Il a tombé, il est parti, voilà.
Mais vous n'êtes pas triste qu'il soit parti ?
Non, je ne suis pas triste, parce qu'il est brillant comme le soleil, hein, voilà. Je suis pas.
Il est brillant comme le soleil ?
Oui !
Brillant comme le soleil, Manu. Salut l'artiste qui brille au firmament. Un départ sans retour, hein, même en cas d'énième défaite, car nul doute que dans ce cas, il mettra en pratique sa phrase favorite. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration. Viva Esmaïa.
Merci Guillaume Meurice. Cédric Herrou, peut-être vous voulez réagir là-dessus ? Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, réfugié politique en Espagne.
Mais ouais, pas très bien accueilli non plus. Ouais. Donc, ouais.
On se souvient d'ailleurs, ça fait partie.
Je l'appelle chez lui, j'ai une caravane vide s'il veut.
Ah, donc, vous êtes prêt à l'accueillir.
Ouais.
Il y a une séquence dans le film d'ailleurs Libre qui sort en scène aujourd'hui. Mmh.
C'est pour lui faire plaisir en fait. Oui. On pense à lui.
Vous étiez intervenant à l'émission politique face à lui et on voit bien que. Voilà, on voit la caméra se pose à côté de vous alors que vous êtes en duplex.
C'est ça.
Et on voit bien que le dialogue
est interdit de sortir du département. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'ai pas pu me déplacer jusqu'à Paris. Et c'était juste après mon procès et surtout juste après le réveillon, le jour de l'an. Donc, j'avais fait trois nuits blanches dans la semaine. Et j'étais très mauvais pendant cette émission et je me suis senti pas mal pris au piège. Et il y avait un délai de 6 secondes entre ce que je disais, ce que je voyais, etc.
Un décalage
complet. Et c'était assez atroce. Mais c'est vrai que j'avais envie de me mettre sur un ring de terrain de boxe. Pourtant, je suis pas très violent. En général, j'arrive à me tenir. Mais là, j'avais envie de boxer avec lui.
Mmh. Il était alors candidat à l'élection présidentielle. Ouais. Merci Guillaume.
Je vous en prie.
7h42 sur France Inter. En attendant de subir l'éditorial de Pablo Mira,
je vous propose
un autre sujet. Ce sont les oliviers qui se meurent dans la région des Pouilles. Il y a une bactérie qui décime les arbres. Elle est comparable à la peste d'après les articles qu'on a lus. Est-ce qu'elle menace...
Vous parlez pas de la migration là plutôt, non,
non. Est-ce qu'elle menace les oliviers français et les champs de nos agriculteurs?
Vous demandez, cher voisin, pourquoi je suis venu m'installer ici?
Ah ça oui, je me le demande.
Eh bien... parce que j'en suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. Je veux manger les légumes de mon jardin, recueillir l'huile de mes oliviers, gober les œufs frais de mes poules, m'enivrer du vin de ma vigne.
Oh, ben ça sera pas de sitôt, hein. Les oliviers sont partis dans la sauvagerie. Et pour les rattraper, il vous faudra au moins 3 ans.
Jean de Florette, hein, le film avec Gérard Depardieu et Daniel Auteuil. Alors, vous êtes avant tout agriculteur, Cédric Héroux, et on vous entend rarement parler de ce métier. Alors, vous êtes oléiculteur, vous avez beaucoup d'oliviers, vous faites notamment de la tapenade, qu'on
c'est
a déjà
ça, qui est excellente d'ailleurs.
Délicieuse.
De la pâte d'olive.
Pâte d'olive.
Parce que la tapenade, il y a des anchois.
C'est de la pâte d'olive que vous vendez sur les marchés. Vous êtes oléiculteur à la frontière italienne, alors est-ce que vous êtes inquiet ou touché par cette bactérie?
Non, heureusement. Non, pas du tout.
Vous en avez entendu parler?
Oui, bien sûr, c'est inquiété en 2015, ça commence en 2015, il me semble. Et on était assez inquiet en 2015, et donc là, pour l'instant, c'est pas monté, donc tout va bien. J'ai l'impression que c'est plutôt les exploitations intensives, en fait, cultures intensives qui sont attaquées. Et je pense qu'en bio, on est assez préservé de tout ça.
Vous avez combien d'oliviers, vous ?
Il y en a en tout 700.
Ah oui, d'accord.
Et vous arrivez à les entretenir avec votre activité?
Non, c'est juste une couverture pour vendre la drogue.
Non, les olives, il y a des barrettes.
C'est effectivement la question que j'allais vous poser, parce que les agriculteurs, c'est aussi un métier en souffrance. Il y a un article qui est paru aujourd'hui dans la Dépêche du Midi qui rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, quand même. Un métier en souffrance, et vous...
Ça fait des pauvres en moins, c'est quand même pas mal.
Vous vous occupez des gens en souffrance, aussi avec l'accueil des réfugiés. Mener les deux activités de front, on voit notamment dans le film Libre que ça vous oblige à modifier un peu votre activité. Comment est-ce que vous vous débrouillez?
Je me débrouille que je suis à découvert, donc depuis longtemps. Et quand je suis pas sur place, mon frère Morgan m'aide. D'ailleurs, je le salue, qui doit m'écouter, j'espère. Salaud. Et mon père, la famille est quand même très présente. Et il faut savoir que c'est pas
ils
un
font
métier.
Tourner le...
Mais après, c'est pas un métier que j'ai. Moi, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où. Ouais, c'est mais j'ai pas de clients, c'est des partenaires et c'est pour ça que j'ai réussi à tous les conserver. Et malgré les pressions qu'ils ont eues, parce que tous mes clients ont été convoqués par la police des arrêts des frontières pour savoir pourquoi ils me faisaient des chèques. Donc tous mes clients depuis 2015. Donc ils ont essayé vraiment de me couler, en fait la police a essayé de me couler sur un point de vue professionnel et ça a été compliqué. Et donc j'ai pas pu récolter l'année dernière et celle d'avant les olives, donc j'ai eu gros problèmes financiers aussi là-dessus. Donc j'ai dû me mettre aux poules pondeuses et agrandir mon cheptel de poules pondeuses. C'est une culture qui est un peu plus facile et régulière et journalière. L'olivier, il y a beaucoup de travail entre décembre, janvier, février, mars jusqu'en avril. Et c'est 24 sur 24 quasi.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Il y a la sieste déjà qui prend 2 heures.
Beaucoup de questions sur Twitter. Ça travaille bien, un migrant.
Un migrant. Ils sont un peu branleurs, les Africains.
C'est
pour ça que j'aimerais bien avoir la migration qui vient du Nord, des Allemands, des bons, des costauds. Les Érythréens, 45 kilos. C'est
des bavarois, c'est pas possible. Un appel.
Non, mais les Érythréens, j'ai essayé, ça vaut pas le coup.
Pour répondre à la question d'André, oui, ça consiste en quoi, vous êtes oléiculteur?
On commence à récolter en décembre, donc on pose des filets au sol, on tape sur des arbres et sur des branches, et puis on ramasse les olives au sol, et une fois par semaine on va au moulin, les plus belles olives on les met au sel, et on les laisse 1 an, et donc dans de l'eau et du sel, dans une saumure. Et après ça on peut faire soit les vendre en olive de table, soit faire de la pâte d'olive, et on peut faire de l'huile d'olive aussi, et voilà.
Et là, donc, c'est surtout les poules pondeuses, c'est ça? C'est l'activité que vous avez développée un peu en urgence?
Un peu plus, ouais, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Ben là, rien, je suis chez
vous. Vous leur chantez les chansons pour qu'ils
comprennent. Non, mais les poules, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup... En fait, c'est la vente en direct qui est facile. C'est qu'on arrive à vendre nos produits à un prix où on arrive à vivre. Et donc, je vends tout, quasiment tous mes produits en, grâce à des AMAP, des sous pour le maintien de l'agriculture paysanne. Mmh. Balico, que je salue aussi. Donc, du coup, vu que c'est de la vente en direct ou des petits magasins qui m'achètent à un prix quand même correct, on arrive à vivre.
C'est-à-dire que quinca, vous arrivez à
je gagne beaucoup plus que quelqu'un qui a une exploitation 10 fois plus grosse que la mienne. Mmh. Donc, il y a un mode, en fait, de distribution qui est directement à la clientèle et vente en local. Et donc, du coup, ça marche beaucoup mieux qu'un gros producteur qui est obligé, en fait, d'exporter ou de travailler avec des grosses chaînes et qui vend ses produits à rien, quoi.
Cédric Héroux, je vous propose de laisser la parole à celui qui, depuis 5 ans déjà, prend, lui, le risque de faire passer des xénophobes en France en les accueillant chez lui. Ouais. C'est Pablo Mira.
Ouais, Charline, je me souviens, ça a commencé avec une petite fille raciste en 2013. Aujourd'hui, c'est tout le staff de Matteo Salvini qui dort dans mon jardin.
Oui, donc Pablo, vous allez nous parler de ces personnes qui viennent en aide aux migrants, que ce soit notre invité Cédric Héroux ou l'équipage de l'Aquarius.
Tout à fait, Charline, et aujourd'hui, je vais être direct, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté pour deux raisons. La première, c'est la présence de notre invité Cédric Héroux dans ce studio. La deuxième, c'est l'absence de coiffeur dans ce studio alors que Cédric Héroux est ici même. Un catogan queue de cheval en 2018, c'est non. Alors moi, je vous le dis d'entrée, Cédric, ça ne m'impressionne pas du tout ce que vous faites. Déjà, idéologiquement, je ne suis pas fan, je vous le dis directement. Et puis d'accord, vous accueillez chaque année des dizaines, des centaines d'immigrés clandestins dans votre jardin. D'accord, mais c'est rien par rapport, par exemple, à Éric Zemmour qui, lui, en accueille chaque soir plusieurs millions dans ses cauchemars. Alors, bien sûr, vous avez des convictions, Cédric, des convictions même très fortes. Pour info, Alex, des convictions, c'est ce qu'on a quand on refuse d'aller bosser chez Ardisson. Et ces convictions, vous voyez, vous poussent depuis 6 ans, non un peu moins, pardon, je corrige, depuis 2-3 ans, à mener des actions qui sont évidemment louables. Elles le sont, louables, ces actions, Cédric. Mais je veux que vous compreniez une chose. Moi, je ne veux pas non plus jeter la pierre à tous ceux à qui l'immigration fait peur. Moi, à ces gens-là, je veux plutôt leur dire, tenez, voici une pierre. Jetez-la sur Cédric Héroux. Car c'est triste, mais je le répète depuis des années, on ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas la mâchoire de Didier Deschamps. Et pourtant, aujourd'hui, en face, on assiste à une vague migratoire massive, massive. J'ai même envie de dire, on est en face d'une vague migratoire Gérard Larchive. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est René, hein, qu'on a au téléphone, expert en flux migratoire, attaché à l'université du Bar-Tabac, le Comptoir, à l'angle de la gare du Nord à Paris. Bonjour René.
Ouais, salut Pablo.
René, merci déjà de nous accorder un peu de votre ébriété. Ouais. René, vous qui avez étudié de près la question de l'immigration, ma question elle est simple aujourd'hui pour vous. Pouvez-vous nous dire combien il y a à l'heure actuelle de clandestins sur le territoire français, s'il vous plaît?
Je sais pas, mais un sacré paquet.
Merci René, voilà, c'est donc confirmé, Charline, il y en a un sacré paquet, des chiffres qui font froid dans le dos. Mais ce n'est pas tout, il y a pire en matière de chiffres qui font peur. Chaque année, écoutez bien, chaque année, 200 000 personnes de nationalité étrangère entrent sur le territoire français, voire même 250 000 selon certaines estimations. Alors bien sûr, vous pourriez me contredire en précisant que sur ces 200-250 000, il y en a déjà un tiers qui sont des étudiants en Erasmus. Ensuite, il y a les expatriés qui travaillent ici et puis les conjoints et les enfants de Français qui étaient à l'étranger et qui reviennent ici. Vous pourriez montrer de cette façon que j'ai tort. Mais vous savez pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que je viens de le faire à votre place, Charline. Non, si vous voulez mon avis, l'origine de cette crise dont on subit les conséquences aujourd'hui, c'est l'absence de concertation à l'échelle européenne, tout simplement. Franchement, voir les pays européens incapables de régler cette catastrophe et se battre chaque année pour ne pas avoir à accueillir de gens désespérés qui viennent d'un peu partout, ça me rappelle les heures les plus sombres de l'Eurovision, je vous le dis. Alors au final, je vais vous dire une chose, je respecte la décision du gouvernement d'avoir dit non à l'Aquarius, parce que il en faut du courage pour dire à quelqu'un qui est dans la détresse, désolé, mais tu ne peux pas venir chez moi, il faut rentrer maintenant. Et ça, les dates d'Alex Vizorek sont bien placés pour le savoir. Pour conclure, Charline, laissons les migrants se débrouiller tout seuls. Je vous le dis aussi droit dans les yeux, Cédric. La France a déjà trop de problèmes à régler pour se permettre de venir en aide aux autres. Des problèmes comme le fait de résoudre le problème du chômage ou de soigner son obsession à propos de l'immigration. Et ça, il y a du pain sur la planche. Allez, salut.
Merci Pablo Mira. Je rappelle que vous êtes en ce moment au Théâtre Trévise.
Ouais, beaucoup de démagogie pendant ce spectacle.
Ça dégouline tous les mardis.
Tous les mardis à 19h30 au Théâtre Trévise.
Où vous dites des choses contre de l'argent. Voilà. Vous êtes sur France Inter par Jupiter. Cédric Héroux est notre invité. Il vient pour le film Libre de Michel Toesca qui sort en salle aujourd'hui. Et tiens, Michel Toesca sera l'invité de Laurent Goumard ce soir dans le nouveau rendez-vous. Et on va aborder ce troisième sujet qui est destiné à se détendre. Comment entamer la conversation avec un inconnu sans parler de la météo? Et sans dire, sinon vous faites quoi dans la vie? Très difficile, nous sommes là pour vous aider, tout en sachant que le deuxième contact n'est pas plus facile, écoutez.
Hi Fritz, it's Lola. We met in front of le baron last week. So you told me to call you today because you come back from Berlin. So I call you, I leave you a message. So you can call me this afternoon. Or maybe I'll call you back. Yes, anyway, I'll call you back, but you can also call me. Thank you very much. Bye-bye, Fritz.
Eulalie Juster dans La vie au ranch, un film de Sophie Le Tourneur. C'est un article paru sur Slate.fr qui s'intitule « De l'art d'entamer une conversation avec une personne inconnue ». Cédric Héroux, vous avez appris très tôt à cohabiter avec des inconnus de votre âge. Si je ne me trompe, vos parents accueillaient des enfants délaissés. Vous partagez votre temps, vos jouets, vos repas, etc. Donc est-ce que aborder l'autre et l'inconnu, pour vous, c'est quelque chose d'inné?
J'ai appris grâce à la culture de la Côte d'Azur. Maintenant, je leur demande les papiers. Et puis, s'ils me disent non, je me dis, tiens, il y a du blé à se faire. Donc, du coup, je les mets dans ma bagnole. C'est pour ça que je suis très ouvert à l'autre, en fait.
Il y en a qui vous ont volé un cendrier, des choses comme ça.
Hein, bien pire que ça.
Il faut le dire aussi.
Des oliviers entiers. Ils se baladent dans la France avec des oliviers entiers.
Mais le pire, vous savez, le pire, quand ils marchent 3 jours, 4 jours dans la montagne, le pire, c'est qu'ils ont faim après.
Mais non,
ils vous bouffent toutes les denrées. L'un des sens de ce jardin, moi j'ai fait un potager, ils m'ont bouffé toutes les salades et les tomates, les salauds quoi.
Dingue.
Pas possible. C'est aussi important. Et c'est pour ça que je veux qu'ils partent de la Roya quoi. Ils emmerdent quoi.
Quels sont les premiers mots qui sont échangés entre, par exemple, l'infirmière bénévole ou vous-même ou les habitants qui font l'association des habitants?
Moi, c'est bienvenu d'abord parce que j'ai la responsabilité de faire de l'accueil en France, donc c'est important de représenter le peuple français.
Et c'est en anglais, c'est welcome.
Moi, je reparle toujours en français et quand il y a vraiment c'est parce que je parle pas anglais bien. Mais je trouve que c'est important de leur parler en français pour que ça rentre dans la tête et qu'ils puissent apprendre par la suite.
Bienvenue et donc.
Ouais, c'est bienvenu. C'est bienvenu et qu'est-ce que tu veux manger si tu veux un thé? Voilà.
C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et on entend d'ailleurs qu'en anglais vous êtes pas fortiche dans le film Libre.
Arrêtez s'il vous plaît.
Michel Toesca. Cédric Héroux avec nous. Mais comme en français vous êtes doué, on va vous proposer un petit sketch si vous êtes d'accord.
Non, mais si je suis d'accord, je peux refuser. Donc.
Non, mais vous ne pouvez pas parce que c'est un rôle que vous rêvez d'endosser depuis si longtemps.
Ah ouais, évidemment.
Le rôle d'Éric Ciotti.
Évidemment. Faites-vous plaisir,
Cédric. Voici une tondeuse.
Et une émission sur France 3, Côte d'Azur. Éric Ciotti est là. Christian Estrosi, en la personne de Guillaume Meurice, qui aimait ce rôle aussi. Accompagné de sa dame, que ce sera
Madame
Charline.
Estrosi, oui.
Et je vais présenter ce débat parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord, ces deux-là. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand débat entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qui vous différencie.
C'est simple. Monsieur Estrosi est devenu un anarcho-gauchiste.
Non, je me suis simplement aperçu que je n'étais pas dans la bonne famille politique. J'ai un cœur.
Oh, c'est beau.
Oui, excusez ma compagne, elle est émotive. Et je souhaite que ma politique soit conforme à mes convictions. Mamour, j'ai été bon là? C'était bien de gauche?
Oui, mais enfin, t'as parlé, mais sans rien dire là, mais bon.
Bah, c'est comme ça qu'ils font, hein, En Marche, non?
Monsieur Estrosi, oui. En quoi vous vous sentez donc de gauche?
Je suis pour une plus grande solidarité entre les hommes et les femmes de ma ville.
Oh, ça c'est de gauche, la solidarité.
Monsieur Estrosi, vous êtes devenu un pinque à chien. Dans 3 semaines, il jouera du diabolo sur la promenade des Anglais, le salaud.
Attendez, monsieur Estrosi, on y reviendra. Mais monsieur Estrosi, oui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Oh ben alors par exemple, la semaine dernière, j'ai donné 50 centimes à un SDF.
Et voilà. Maintenant, ils prennent la cistana. Bientôt, Nice accueillera toute la misère du monde, je vous le dis.
Oui, oui, enfin, monsieur Strozzi, vous dites que vous êtes devenu de gauche, mais oui. Vous avez quand même empêché la diffusion dans votre ville du film Libre de Cédric Herrou.
De Cédric Herrou ?
C'est une saloperie.
Oui, c'est un gaucho. On ne pouvait pas diffuser son film car on était en plein festival Jean Roucas. Dis que tu l'aimes beaucoup, puis ça passera.
Oui, alors j'aime beaucoup Cédric Herrou. C'est un artiste incroyable.
Cédric Herrou, une fripouille. Moi, maire de Nice, il restera interdit de territoire.
Voilà, monsieur Ciotti, on y vient. Qu'est-ce qui vous dérange chez monsieur Estrosi ?
C'est devenu un islamo-gauchiste depuis qu'il s'est mis en couple avec cette Fatima.
Non, je m'appelle Laura, moi, hein, Laura.
Oui, bien, ne vous appelez pas Corinne.
Non, parce que je m'appelle Laura.
Ben voilà, c'est ce que je disais. Bientôt, il va accueillir l'Aquarius à Nice.
Alors, pour les migrants, c'est pas si simple que ça. Vous savez, Nice ne peut recevoir...
De gauche, Christian, de gauche. De gauche.
Ah non, mais là, je suis au maximum. Là,
non, mais alors, concrètement, aujourd'hui, Nice est-elle une ville sociale ?
Bien sûr, Nice est très proche d'une population en souffrance.
Et ben qui ?
Les vieux.
Non mais arrêtez d'insulter l'électorat de M. Ciotti.
Vous croyez que c'est facile pour les retraités, Jupiter qui les saigne.
Oh mon cri-cri, ma mamie va t'aimer encore plus.
Alors si on doit accueillir des migrants...
Mais je me tue à vous le dire. Surtout qu'arriva un moment où les migrants seront des retraités.
Bah, et on les mettra où?
Je vois qu'une solution. Chez Cédric Herrou.
Et il est vrai que la diffusion de votre film, enfin du film Libre de Michel Toesca, a été un peu difficile du côté de Nice, nous disent les diffuseurs.
Ouais, Nice, Nice.
Très bonne imitation d'Éric.
Oui, c'est long.
Il semble qu'il a étudié. Il a étudié.
Bravo,
le chiotisme, c'est une maladie contagieuse. Faites attention.
Est-ce qu'on peut rappeler où les gens peuvent aider Habitat et Citoyenneté.
On a plus le temps.
Habitat et Citoyenneté, c'est Hubert Jourdan avec qui on bosse bien. Et sinon, notre association s'appelle DTC. Donc c'est pas défendre ton Ciotti, pas du tout. C'est défendre ta citoyenneté et c'est pas pareil.
Merci Cédric Herrou.
Merci. Allez voir le film parce que c'est un bon film. C'est un film dynamique et on voit des flics en train de taper des noirs. Enfin un peu.
En scène aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric Herrou. On laisse le mot de la fin à un Hérisien sur le départ de Manuel Valls.
J'en ai rien à foutre. Alors c'est pas ça qui va faire cuire ma marmite.